RFI, 8h30 à Paris et 7h30 en temps universel. Un nouveau journal avec vous, Charlotte de Rouen.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. En RDC, près de 7 millions de personnes sont déplacées internes suite aux différents conflits dans le pays. Et la situation est particulièrement critique dans le Nord Kivu, où les déplacés peinent toujours à trouver à manger. Dans la province congolaise de l'Équateur, plus d'une quarantaine de morts, une centaine de disparus, dont le naufrage d'une baleinière en fin de semaine dernière. La société civile sur place dénonce la surcharge de l'embarcation et le manque de gilets de sauvetage. À Madagascar, la commission électorale dénonce un piratage après la publication des résultats contraires sur son site internet concernant les résultats des élections municipales. La CENI avait donné vainqueur dans la capitale la candidate du pouvoir avant que des résultats ne s'affichent en faveur du candidat de l'opposition. En Afrique du Sud, les débats autour de la circoncision traditionnelle relancés après la mort de 20 jeunes. Un chef traditionnel demande un moratoire de 2 ans pour mieux encadrer cette pratique. C'est l'un des meilleurs ambassadeurs de la musique gabonaise à travers le monde. L'oiseau rare est devenu officiellement citoyen gabonais ce week-end. En RDC, dans l'est du pays, les affrontements continuent dans le territoire du Lubero entre les forces congolaises et leurs alliés et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Face à la violence, les civils ont fui en masse. Des centaines de milliers d'habitants de la province du Nord Kivu déplacés ont désormais élu domicile à la sortie de Goma. Certains sont arrivés il y a près de 3 ans dès les premiers affrontements fin 2021. Des dizaines de sites aux abords de la capitale régionale sont devenus de véritables petites villes où, malgré l'aide des ONG, il est toujours aussi difficile de trouver à manger. Reportage de Coralie Pierret.
Le centre de santé de Roussaillo 1 est bondé en cette matinée de décembre. Naïssi vient pour faire vacciner son bébé. Elle habite ce camp de déplacés depuis février 2023.
Pour vivre, nous allons travailler dans les champs pour d'autres personnes. Tu vois comme nos mains sont devenues abîmées ? En échange, on nous donne 3000 francs ou 5000 francs par jour. Et c'est dur de trouver à manger avec ça. Alors parfois, nous partons chercher du bois dans la forêt que nous vendons ici pour pouvoir acheter de la nourriture. Parfois aussi, les gens pour qui nous travaillons nous donnent des patates douces à manger.
Plusieurs ONG, dont Alima à Roussaillo, appuient et apportent une assistante gratuite aux déplacés. Une aide très souvent insuffisante. Alors pour vivoter, certains vendent des unités de téléphone sur le bord de la route. D'autres passent le temps en regardant des films indiens traduits en swahili, la langue locale. Norbert est arrivé il y a 9 mois en provenance de Rutshuru.
Je faisais la cordonnerie et je cultivais des tomates, des haricots, même les maïs. Ça m'aidait beaucoup vraiment, donc je n'ai pas manqué à manger là où j'étais à la maison. Si la guerre termine là-bas, vraiment, je ne peux pas souhaiter de rester ici.
Car dans les camps, impossible de cultiver, faute d'espace disponible. Difficile de savoir avec précision combien sont les déplacés aux portes de Goma. Probablement encore des centaines de milliers. Même si la guerre n'est pas terminée, certains ont fait le choix de rentrer chez eux. Coralie Pierret, de retour de Goma, RFI.
Dans le nord-ouest de la RDC, dans la province de l'Équateur, plus d'une quarantaine de morts dans le naufrage d'une baleinière en fin de semaine dernière. Une centaine de personnes est également portée disparue, partie du port de Lolo dans le territoire de Lingende. Le bateau se rendait en direction de Mbandaka lorsqu'il a chaviré. Les autorités attribuent la cause du naufrage à la surcharge en termes de passagers pour Joseph Bayoko Lokondo, membre de la société civile. C'est surtout l'absence de gilets de sauvetage qui entraîne de tels bilans humains.
Comme on l'a dit, ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. C'est la surcharge, c'est la circulation nocturne. Le vice-premier ministre, le ministre des Transports, avait pris un arrêté pour demander à tous les voyageurs fluviaux de pouvoir se procurer de gilets de sauvetage. Mais cette décision semble être ignorée par les autorités politico-administrative de la province de l'Équateur qui cède à la corruption des gens voyagés sans sauvetage. Voilà, aujourd'hui, nous déplorons plus de 40 morts. Les autorités politiques doivent avoir un œil regardant sur le commissaire fluvial, c'est lui qui veille sur les navigations fluviales, Beaucoup d'armateurs se sont familiarisés avec le commissaire fluvial et d'autres donnent de l'argent pour laisser les passagers voyager comme ça. Ils disent que non, bon, les gilets de sauvetage coûteraient cher. Mais aujourd'hui, nous comptons des morts. Moi, je pense que les autorités doivent voir leur manière de faire les choses pour protéger les vies humaines.
Des propos recueillis par Willy Diallo. Au Tchad, grève générale aujourd'hui pour les médias privés, de la presse écrite, de la radio et les sites en ligne. À l'appel de plusieurs collectifs et syndicats, les médias s'insurgent contre le traitement que leur réserve la AMA, l'autorité de régulation des médias dans le pays, à quelques jours seulement des élections législatives. Ils réclament notamment le versement des subventions prévues par la loi et non versées cette année par la AMA. Ils demandent entre 1 et 4 millions de francs par média. Les chefs d'État de l'AES rejettent le délai de 6 mois que leur laisse la CEDEAO. Dans un communiqué signé Dessimi Goïta, le président de la transition malienne, le Mali, le Niger et le Burkina réaffirment que leur départ de la communauté ouest-africaine est définitif et jugent que cet ultime délai de rétractation de 6 mois n'est qu'une manœuvre pour, je cite, la junte française et ses supplétifs pour conduire encore des actions de déstabilisation de l'Alliance des États du Sahel. Le communiqué annonce aussi que les forces de défense et de sécurité des trois pays sont mises en état d'alerte maximale. La confusion autour des résultats des élections municipales dans la capitale malgache. Vendredi, lors d'une cérémonie officielle, la commission électorale a proclamé la victoire provisoire de la candidate du régime, Arel Lalé Ramantansou, mais samedi soir, le site de la CENI a affiché les résultats en faveur de Toudz Ravalmanan, principal candidat d'opposition à la mairie et fils de l'ancien président Marc Ravalmanan. La CENI dénonce un piratage de son serveur, Pauline Le Troquier.
Vers 19h ce samedi soir, la publication est venue perturber la sérénité du camp présidentiel dont la candidate avait été donnée la veille confortablement en tête à Antananarivo. Sur un document issu du site officiel de la CENI, relayé massivement en ligne, l'opposant Toudz Ravalmanan apparaît finalement gagnant avec plus de 42% des voix. Il a fallu moins d'une heure à la CENI pour supprimer le document, puis dénoncer aussitôt un piratage de son serveur. Soave Anjama Routfik, son rapporteur général.
C'est une volonté de déstabilisation parce que Tana, c'est un lieu, c'est un capital stratégique sur le plan politique à Madagascar. Nous rassurons le peuple malgache, la décision des urnes, c'est ce que nous avons publié. La vérité, c'est la victoire au candidat Arel Ramantansou dans la circonscription de Tanaville.
Depuis l'ouverture d'une enquête, un technicien informatique du team, le parti de Toudz Ravalmanan, a été arrêté dimanche matin. Hier soir, il était retenu au service de cybercriminalité de la gendarmerie pour publication mensongère. Il avait publié sur Facebook les résultats donnés en faveur de l'opposant. Pour le chef de l'opposition parlementaire, Siten Ranjana Soulniak, cette situation ne fait que prouver l'irrégularité du processus électoral.
This is just a joke.
C'est une farce de parler d'un piratage. La vérité est juste apparue soudainement samedi et ils veulent le cacher. Toutes les fraudes que nous avons vues, la CENI en est complice.
L'accès au site de la CENI a été entièrement suspendu alors que la publication des résultats provisoires pour les autres provinces de l'île se poursuit cette semaine. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Au Mozambique, c'est aujourd'hui que le Conseil constitutionnel doit annoncer les résultats des élections présidentielles et législatives, des résultats déjà contestés par l'opposition qui appelle de nouveau à la mobilisation. Aujourd'hui, Venancio Mondlane revendique la victoire à la magistrature suprême et appelle depuis 2 mois à la mobilisation de ses partisans, des manifestations qui ont déjà coûté la vie à au moins 130 personnes selon une ONG locale. En Afrique du Sud, la circoncision traditionnelle en débat après la mort de 20 jeunes ces dernières semaines. Un chef traditionnel de la province du Cap-Oriental dans le sud du pays demande un moratoire de 2 ans sur cette pratique pour réfléchir à un meilleur encadrement. Valentin Hugues.
Les débats autour de la circoncision traditionnelle et de ses risques ne sont pas nouveaux. Récemment, l'Afrique du Sud a par exemple durci les normes d'hygiène après avoir promulgué des lois pour un meilleur encadrement. Mais les décès restent nombreux et pour la province du Cap-Oriental, il faut aller beaucoup plus loin avec des mesures extraordinaires, demande son chef traditionnel. Sa proposition, c'est donc un moratoire de 2 ans, s'asseoir autour de la table et régler ce problème une bonne fois pour toutes pour que ce rite d'initiation à l'âge adulte reprenne sans le moindre danger. Parmi les pistes, créer un tribunal spécial spécialisés contre les pratiques illégales qui sont nombreuses et dangereuses. Plus de pouvoir aux leaders traditionnels pour qu'ils soient de véritables acteurs dans la réglementation. Un meilleur soutien médical dans chaque école d'initiation. Un appel à l'encadrement soutenu par le Conseil national de lutte contre le sida, pour qui il est important de faire évoluer les pratiques culturelles en s'intéressant davantage aux risques sanitaires. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
L'oiseau rare est devenu officiellement citoyen gabonais. Le président de la transition, Brice Oligui Nguema, a attribué la nationalité gabonaise à ce chanteur né au Gabon, mais de parents immigrés. Kourouma Ben Mohamed, de son vrai nom, a donc reçu son passeport gabonais pendant un mémorable concert. C'était samedi soir à Libreville, Yves-Laurent Goma.
Merci à Monsieur le Président, merci au ministre de la Culture, merci à mes rarissimes. Je suis avec vous.
C'est sur son compte YouTube que le jeune prodige de la musique gabonaise a exprimé sa reconnaissance aux autorités du pays. Samedi soir, l'oiseau rare, né d'un père guinéen et d'une mère togolo-gabonaise, était dans un nuage. Pendant qu'il déchirait le cœur de ses fans, l'oiseau rare a vu monter sur scène le ministre de la Culture, André-Jacques Ogan, qui lui a remis, au nom du président Brice Clotaire Oligui Nguema, son passeport gabonais accompagné d'un certificat de nationalité. Et ce n'est pas tout. Oligui Nguema a offert en plus une montre d'une très grande valeur à ce gamin, devenu l'un des meilleurs ambassadeurs de la musique gabonaise à l'international. Cette gratification présidentielle a déclenché une polémique sur les critères d'attribution de la nationalité gabonaise. Certains ont dénoncé une braderie, alors que d'autres ont salué une récompense méritée pour ce talentueux artiste dont la musique inonde les soirées et cérémonies de jeunes comme Niamatos, son tube du moment. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Tu sais bien que je n'ai pas les dos. Tu m'as mené dans le nac, pourquoi? Tu sais pour me prendre au cas de petit, ouais.
Et la suite d'RFI Matin, c'est avec vous, Julien Coquel-Rohem.